Une enfance ukrainienne, une révolution, les Femen, c'est la règle de trois de Ina Shevchenko. Une enfance ukrainienne, tome 1 de la bande dessinée intitulée Prénom Ina, raconte le chemin parcouru vers plus d'indépendance. Née en 1990 à Kherson, ville de 300 000 habitants située au sud de l'Ukraine, elle décrit cette période post-soviétique comme incertaine, angoissante de silence et d'obscurité. À 5 ans, une anecdote la marque. Sa mère rentre du travail et annonce qu'elle ne sera pas payée. Ina Shevchenko pleure toute la nuit. Aujourd'hui, elle dit que si les femmes ukrainiennes étaient économiquement actives, elles restaient politiquement passives et silencieuses. La révolution orange de 2004 lui donne envie de se battre pour la liberté d'expression. En 2006, l'assassinat à Moscou de la journaliste Anna Politkovskaya, qui enquêtait sur la torture en Tchétchénie, la convainc définitivement. J'ai compris qu'elle était puissante et ses assassins faibles, dit-elle. Ina Shevchenko se veut puissante. Elle rejoint la capitale ukrainienne à 18 ans. Le mouvement des Femen est créé à Kiev en 2008. Un an plus tard, Ina Shevchenko le rejoint à l'âge de 19 ans. À 21 ans, après une manifestation devant le siège du KGB en Biélorussie, elle est arrêtée et torturée. En 2012, les Pussy Riot sont jugés à Moscou pour avoir lancé des chants anti-Poutine dans une église. En soutien, Ina Shevchenko découpe une croix à Kiev. Victime de menaces, elle se réfugie en France, devient leader du mouvement et impose ses méthodes.
1, 2, 1, 2. Now scream and show as much aggression as you can, but look straight into the eye of your enemy.
Depuis, sous sa direction, les Femen ont manifesté à Davos, mené une action à Notre-Dame, à Milan, ont uriné sur un portrait du président ukrainien en 2013.
We are coming today here to pee on this face, on the face who is bringing dictatorship to Ukraine.
En août dernier, elle a participé à la préparation du G7 à Biarritz pour que la question des droits des femmes y soit abordée. Grâce à ce parcours, Ina Shevchenko est devenue une femme puissante.
Et une figure forte du militantisme féministe, prénom Ina, qui retrace les premières années de votre vie, Ina Shevchenko. Votre maman, vous l'adoriez, vous l'adorez toujours, mais un contre-exemple total, parce que vous dites précisément, politiquement, une forme de passivité à l'époque, contre laquelle vous vouliez, non pas vous insurger, mais vous ne vouliez pas suivre le même chemin que votre mère et que les femmes de sa génération.
Oui, ce que je me rappelle de mon enfance, c'est vrai que je me rappelle de l'obscurité, de l'humiliation, mais surtout du silence. Silence partout, silence de mes parents et surtout de ma mère. Ma mère qui a souffert beaucoup plus que mon père, alors qu'elle a souffert aussi. Mais ma mère n'a jamais vraiment osé se plaindre. Parce que, en effet, les femmes en Ukraine ont dû vivre cette double peine, ont dû souffrir beaucoup plus et elles ne pourraient pas se permettre de se plaindre parce qu'en effet, il n'y avait pas d'autre solution que de résister et d'essayer de survivre.
Survivre et donc, au jour le jour.
Exactement, c'est ça le mot, je pense, que je dois utiliser pour décrire cette période, pour décrire mon enfance aussi et pour décrire l'histoire de mon pays, en fait. L'histoire, en tout cas, de l'Ukraine à partir de la chute de l'URSS. Il y a 30 ans, le peuple ukrainien se soulevait pour défendre, pour se battre pour leur dignité. Il y a 20 ans, ils se battent pour leur dignité et la démocratie. Toujours encore, aujourd'hui, ils se battent pour leur dignité, pour la démocratie et pour l'indépendance aujourd'hui. Et donc, pour moi, cette histoire, c'est bien sûr, c'est mon histoire, mais c'est aussi l'histoire de toute la génération.
De votre génération.
Des gens qui ont vécu quelque chose d'exceptionnel, qu'on oublie ou qu'on ne connaît pas.
Mais qui a été très violent au jour le jour.
Oui, mais aussi, et c'est aussi pour moi une tentative de répondre à moi-même pourquoi est-ce que j'ai choisi de militer et d'avoir cette histoire que vous
et d'intégrer les Femen.
Voilà, c'est parce que je pense que je n'aurais pas choisi de se battre pour mon indépendance si je n'avais pas observé et grandi dans cette société qui se battait pour sa propre dignité.
Claude,
Ina Shevchenko, quand vous êtes petite fille, l'Ukraine est un pays sans règles. Il n'y a plus de structure, il n'y a plus de cadre, il y a de la corruption, il y a de la violence. On voit votre père être battu. À quel moment avez-vous perdu la peur qui était en vous, petite fille? Est-ce dans cette enfance-là, est-ce plus tard, quand des agents du KGB vous ont enlevée et torturée en Biélorussie. Quand est-ce que vous avez cessé d'avoir peur?
Pourquoi vous pensez que j'ai perdu la peur?
Vous avez encore peur?
J'ai encore peur. Et en fait, c'est la peur qui me donne l'énergie de me battre. Parce que je sais, j'ai vécu quelque chose assez dur. Je sais comment la vie des gens peut être affectée par les décisions politiques, par le contexte politique, par la crise économique. Et parce que j'ai peur de vivre ça encore une fois ou de vivre quelque chose pire de ça, je continue de me battre parce que j'ai peur de encore une fois être torturée, parce que j'ai peur de l'exil.
Ce qui vous arrive en 2011 en Biélorussie, c'est ça?
Oui, parce que j'ai peur de l'exil que je connais très bien dans mon chair. Je continue de me battre. Donc la peur, non.
La peur est un moteur.
Exactement.
La peur est un moteur. On va évoquer avec Nadia, Ina Shevchenko, si vous le voulez bien, la liberté d'expression en Russie.
Oui, avec une histoire qui en dit long donc, sur les libertés individuelles en Russie. Un garçon qui s'appelle Alexandre Dolgopolov. C'est un jeune humoriste russe. Il a 25 ans. Il a fui son pays, la Russie. La semaine dernière, il dit craindre pour sa sécurité depuis que la police s'intéresse à lui. Et tout ça, c'est parti d'un spectacle qu'il a donné à Saint-Pétersbourg, dans lequel il s'est moqué pêle-mêle dans le même sketch de Vladimir Poutine, de Jésus et de la Vierge Marie. Et on le sait peu, mais depuis 2013 et l'adoption d'une nouvelle loi, il est interdit de, je cite, porter atteinte aux sentiments religieux en Russie. Ça avait été voté après l'affaire des Pussy Riot qui avait donc chanté ce chant hostile à Poutine dans une cathédrale. Elles avaient été condamnées pour hooliganisme religieux. Et ce comédien qui cache même à la presse le pays dans lequel il se trouve aujourd'hui, il a cette phrase, il dit « quand on vit en Russie, on vit constamment dans la peur ». Il a donc été obligé de partir. Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans l'opposition, on ne peut pas être dissident à Poutine aujourd'hui et rester dans le pays, il faut partir.
En effet, aujourd'hui, beaucoup de gens partent du pays. Mais vous savez, je pense que Poutine lui-même, en tant que personne, en tant qu'un homme politique, je pense qu'il n'est pas si dangereux aujourd'hui comme le régime de Poutine, comme tout le système qui est maintenu non seulement par Poutine, qui est déjà un homme vieux, fatigué, qui est prêt de partir. Mais ce qui est très dangereux, c'est le système qui va continuer.
L'oligarchie, la corruption.
Exactement, la corruption, la violence policière, l'oligarchie et bien sûr l'Église russe orthodoxe qui maintient cet ordre, qui ne permet pas, de l'évolution sur la question de droits humains, de droits de femmes. Je voudrais rappeler aussi que en Russie, en 2017, les violences conjugales ont été dépénalisées. Donc aujourd'hui, taper sa femme n'est pas un crime. En Russie, donc tout ça, c'est le système du Poutine qui est très dangereux.
Une dernière chose, Ina Shevchenko. En 2019, vous avez, à la tête des Femen, protesté contre les féminicides, fait des actions choc contre les féminicides. On vous a retrouvé aussi en 2019 au G7 aux côtés d'Emmanuel Macron. Certains ont dit que vous vous normalisiez, que vous vous compromettiez et que ce mouvement Femen, et vous en l'occurrence, qui les représentez, ne devrait pas intégrer ou en tout cas côtoyer à ce point-là le pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Alors, il y a 10 ans, en Ukraine, à Kiev, il y avait le seul moyen pour moi à voir ma voix, ma propre voix, de m'exprimer. C'est aller littéralement dans la rue, crier. Crier, encore une fois, écrire les slogans sur mon corps parce que mon voix était inexistante en tant que voix féminine. Aujourd'hui, après 10 ans de combat, après un chemin assez difficile, assez dur, je tente d'essayer chaque opportunité, chaque porte qui est ouverte ou qui est fermée aussi, je tape chaque porte, sinon je rentre par la fenêtre.
Oui, c'est ce que vous aimez dire.
Voilà, et je vais jamais refuser de contribuer au débat et au travail pour les droits des femmes.
Très bien.
Je vais aujourd'hui aller dans la rue manifester, demain rentrer à l'Élysée travailler sur les questions des droits des femmes, et après demain encore vous allez me voir dans la rue.
La fin justifie les moyens, comme on dit.
Je n'ai pas des limites pour mon activisme et pour mon travail. Mais oui, et je voudrais juste, pour la fin, je voudrais dire que si, parce qu'on a parlé de la liberté d'expression et de Russie, et si j'ai dû écrire, co-écrire avec un team génial, ce livre, c'est parce que je voudrais aussi rappeler, peut-être parler avec les Français, rappeler de bonheur qu'ils ont.
D'avoir la liberté d'expression.
Voilà, rappeler qu'il y a beaucoup de pays, y compris mon pays natal, Ukraine, où les gens souffrent du manque de liberté d'expression, souffrent du manque des droits humains, et il n'y a aucun pays dans le monde où les gens souffrent de l'excès de la liberté d'expression, l'excès des droits humains. Et donc, chaque fois qu'aujourd'hui, en France, maintenant je fais une petite référence à cette histoire avec une jeune femme, Mila.
On n'a plus le temps.
Mais je voudrais juste rappeler à chaque Français qu'il ne faut pas limiter.
Il faut chérir la liberté d'expression.
De vos propres bonheurs. Merci.